Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Massacre d'une centaine de civils par le M23 mercredi et jeudi dernier dans le Rutshuru au Nord Kivu. Des réactions fusent de partout condamnant cet acte. Le gouvernement congolais rassure, tout est mis en œuvre pour alimenter une enquête internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, déclare son porte-parole. L'AFEC Grand Bandundu dénonce des missions de contrôle jugées intempestives au sein des entreprises de Bandunduville et de Kikwit. Contrôle sur la taxe de l'environnement notamment, l'AFEC Grand Bandundu demande l'intervention de la vice-premier ministre en charge de l'environnement afin de suspendre la mission en cours. Et puis, l'invité de ce midi, Emmanuel Kakule, président de l'Agence congolaise de promotion des droits des personnes handicapées, en marge de la commémoration de la journée internationale ce samedi 3 décembre, il vient nous parler notamment de l'importance du sport pour la personne handicapée. Madame, messieurs, bonjour. Nord Kivu, des réactions fusent de partout après le massacre d'une centaine de civils mercredi et jeudi dernier dans la localité de Kishishe et ses alentours, en groupement de Bambo, chefferie de Buito dans le territoire de Rutshuru. Parmi ces réactions, celle du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, de la MONUSCO, mais aussi de l'organisation Human Rights Watch, tous condamnent vivement ce crime commis par les rebelles du M23 qui occupent plusieurs localités et groupements dans le Rutshuru. Le point avec vous, Peleki Pelamondo. Bonjour.
Bonjour Belinda. D'abord, cette réaction du gouvernement au cours du Conseil des ministres hier vendredi 2 décembre. Le gouvernement s'assurera que tout soit mis en œuvre pour que les dossiers soient rapidement constitués pour alimenter une enquête internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a déclaré le ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Le gouvernement a été chargé de décréter 3 jours de deuil national à partir de ce samedi, d'après le compte rendu du ministre et du Conseil des ministres. Pour sa part, la MONUSCO s'est dit horrifiée par les informations faisant état d'atteinte aux droits de l'homme qui seraient attribuées au M23 dans les villages Kishishe, à environ 34 kilomètres de Rwindi en territoire de Rutshuru. Sur son compte Twitter, la mission onusienne dénonce des actes épouvantables et appelle les autorités compétentes à enquêter sans délai et à traduire les auteurs en justice. Pour sa part, les primes Nobel de la paix n'est pas resté silencieux. Sur son compte Twitter également, le docteur Denis Mukwege dénonce les massacres de masse, des personnes disparues et autres recrutements forcés d'enfants. Pour Denis Mukwege, je le cite, ces crimes doivent entraîner des sanctions rapides aux forces d'occupation M23, RDF et des poursuites par la justice nationale et internationale. Fin des citations. Signalons aussi cette réaction de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, qui parle également des rapports inquiétants d'un grand nombre de civils tués ces derniers jours à Rutshuru. Ces actions pourraient s'apparenter à des crimes de guerre, affirme-t-il. Il appelle à l'arrêt immédiat des hostilités et au respect du droit international humanitaire.
Merci à vous, Peleki Pelamondo. Nord Kivu toujours, deuxième jour d'accalmie relative ce samedi dans les localités de Kishishe, Kirima, Luchébéré et alentour dans le groupement Bambo, chefferie de Buito. C'est après des combats qui ont opposé au courant de la semaine les FARDC aux rebelles du M23. Ces rebelles ont commis des crimes et exactions diverses contre la population. Cette situation a suscité une psychose dans le territoire de Buito et occasionne des mouvements des populations craignant de subir le même sort. En outre, le renforcement des positions de ces deux forces accroît l'inquiétude au sein de la population environnante de cette région. Sachez aussi qu'à Goma, un groupe des déplacés de guerre de Kanyaruchinya a reçu symboliquement hier l'assistance humanitaire envoyée par le président de la République de l'Angola, João Lourenço, pour soulager leur misère pendant cette période de crise humanitaire. La cérémonie s'est déroulée à la 34e région militaire devant l'envoyé du président angolais, le général João Nassone, et plusieurs personnalités. Nous y reviendrons. Toujours au Nord Kivu, la société civile Force Vive du groupement de bananes de Kainama dans le territoire de Beni juge positif le bilan d'une année d'opération conjointe FARDC-UPDF, opération lancée le 30 novembre 2021 dans leur région. Pour le président de cette structure, ces opérations ont permis la destruction des grands bastions ennemis d'où provenaient les assaillants pour déstabiliser leur milieu. Dans sa déclaration, cet acteur de la société civile salue la poursuite de ces opérations pour mettre fin aux tueries. Jonas Zawadi Bin Kasumba est au micro d'André Kitenge.
Une année après le lancement des opérations conjointes FARDC-UPDF, au sein de notre groupement Banane de Kainama, nous, comme force vive de ce groupement, nous jugeons positives ces opérations conjointes FARDC-UPDF parce que depuis le lancement de ces opérations-là, nous avons assisté à la destruction des grands bastions de l'ennemi qui se trouvaient au niveau de Zunguluka, Malibongo, Aizi, Batonga. En tout cas, ce sont les bastions par lesquels provenaient les ennemis pour venir déstabiliser sérieusement notre groupement Banane de Kainama ainsi que la chefferie de Wanyali Tchabi. Alors jusqu'à présent, les opérations continuent, même la population de Ringeti est en train de suivre les détonations des armes lourdes, même au niveau de Boga. En tout cas, pour le moment, ces opérations s'effectuent maintenant dans les FEPO, là où la population faisait maintenant les activités champêtres.
Et puis, l'arrivée du coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation à Kindu est une preuve que le Maniema est pris en compte dans la réalisation de ce programme. Pour le gouverneur intérimaire du Maniema qui le dit, l'occasion est donnée aux jeunes de sa province qui avaient pris les armes pensant mieux faire de travailler désormais pour le développement de leur entité. Afani Idrissa Mangala s'est ainsi exprimé hier en accueillant le coordonnateur du PDD-RCS, Tommy Tamboué est arrivé à Kindu dans le cadre du processus d'identification de tous les groupes armés actifs dans cette province. Afani Idrissa Mangala, gouverneur intérimaire du Maniema, s'exprime à ce sujet au micro de Florence Kiza.
Le programme ici, c'est le programme du chef de l'État. La province du Maniema doit s'en approprier. C'est un programme qui va nous amener le développement dans la province du Maniema et la reconversion mentale des filles et fils de la province du Maniema qui ont été égarés, considérant que prendre les armes, c'est ça le vrai mode de vie. Mais avec ce programme, nous allons les reconvertir. D'abord, d'abandonner les armes et puis de leur apprendre comment développer leurs milieux respectifs. C'est-à-dire, dans ce programme, il y aura beaucoup de projets de développement qui seront à l'actif de notre province. Parce que si l'État n'avait pas compris ces revendications des différents groupes armés, ne devrait pas mettre en place ce programme. C'est pour répondre efficacement, favorablement aux revendications de ces groupes armés pour que le développement soit une réalité dans leurs milieux respectifs. Parce que la province du Maniema est totalement enclavée. Mais à partir de ce programme, nous allons ouvrir la province du Maniema vers le monde extérieur.
Pendant ce temps, notez la poursuite à Nairobi au Kenya, des travaux en groupe des différentes délégations du Nord et Sud Kivu, de l'Ituri, du Maniema et du Tanganyika qui participent au troisième round du processus pour la paix dans l'Est de la RDC. Depuis ce matin, les groupes repartis en cinq provinces continuent avec le toilettage de leur tableau de recommandations et la poursuite des travaux pour ceux qui n'ont pas fini. Cet après-midi, les équipes de facilitation vont rejoindre ces groupes dans leur lieu de travail pour les séances de validation des différentes recommandations et conclusions. Une feuille de route par territoire et province est attendue à l'issue de ces travaux. Je vous l'ai dit dans les titres, la Fédération des entreprises du Congo FEC de l'espace Grand Bandundu monte au créneau pour dénoncer les visites des contrôles intempestifs des entreprises dans les villes de Bandundu et de Kikwit en cette période de fin d'année. Pour Mikaba Katembo, président de la FEC Grand Bandundu, après les deux derniers contrôles, notamment de la Direction provinciale de l'environnement et celle de la DGRAD, maintenant c'est le Secrétariat général de l'environnement qui est sur terrain pour la même cause. Mikaba Katembo lance un SOS auprès de la vice-première ministre en charge de l'environnement afin de suspendre cette mission en cours pour favoriser, dit-il, un bon climat d'affaires pendant cette période. Le président de la FEC Grand Bandundu joint par Irène Boma.
L'AFEC Grand Bandundu dénonce en cette période de fin d'année 2022 les visites de contrôle intempestives auprès des entreprises dans la ville de Bandundu et Kikwit.
Il y a une délégation du secrétariat général de l'environnement qui est venue faire le contrôle sur les opérateurs économiques sur la taxe de l'environnement.
Pour votre information, au cours de cet exercice, les contrôles ci-après ont été effectués dans les entreprises sur la même matière par la division provinciale de l'environnement et aussi la DGRAD, direction provinciale de Bandundu. Dans tout cela, il y a eu redressement et paiement des amendes. Nous lançons un cri d'alarme auprès de Madame la vice-première ministre et ministre de l'Environnement pour suspendre cette mission à ce moment afin de permettre aux opérateurs économiques de s'atteler aux préparatifs des états financiers et approvisionner les marchés en produits de première nécessité. Aussi, ces contrôles devront être réglementés et définir la périodicité en vue d'éviter des improvisations sans nom.
La province de l'Ituri compte environ 1065 personnes vivant avec handicap, dont la plupart sont victimes des conflits armés qui persistent depuis près de deux décennies dans cette partie du pays. Ces chiffres ont été publiés vendredi par la Fédération provinciale des associations des personnes vivant avec handicap en marge de la célébration ce 3 décembre de la journée mondiale dédiée à cette catégorie des personnes. Cette structure plaide pour la restauration de la paix dans l'Ituri pour éviter des nouvelles victimes et le respect de leurs droits par les autorités de l'État. Ézéchiel Mouzalia nous fait le point.
C'est depuis 5 ans que la province de l'Ituri est secouée par des conflits armés, notamment dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa. Cela malgré les efforts de restauration de l'autorité de l'État dans ces entités qui comptent plusieurs victimes de guerre. Selon la Fédération des personnes vivant avec handicap, la plupart d'entre eux, dont les organes ont été amputés, sont invalides et vivent dans la misère. Cette structure déplore surtout la discrimination sociale contre ces personnes, y compris dans leur propre famille. Le communicateur de cette organisation, l'organisation Dezunga Chudi indique qu'au moins 1065 victimes d'handicap sont déjà recensées dans la province. Cependant, ils sont abandonnés à leur triste sort. Il invite les autorités à multiplier les efforts pour restaurer la paix en province et surtout garantir leurs droits.
Le nombre de personnes en situation d'handicap s'accroît du jour le jour. La cause de cette hausse exagérée est due au suite des conflits, de la guerre qui se passe chez nous. Nous voyons nos frères en train de souffrir comme ça, ça nous fait du mal au cœur. De ce fait, nous pouvons demander à l'État congolais de prendre son pouvoir à main pour que la paix règne sur toute l'étendue de la République.
Signalons que le thème international retenu pour cette année est un travail décent pour les personnes handicapées. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Toujours dans le cadre de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, journée instituée depuis 1992 par les Nations Unies. Au Sud Kivu, c'était l'occasion pour l'organisation Biakwetu Life à Bukavu d'organiser une série d'activités du 2 au 9 décembre 2022. Au nombre de ces activités figure une action caritative, une journée environnementale, la culture et deux jours de formation des personnes vivant avec handicap pour leur autonomisation. Boniface Matabishi, directeur général de Biakwetu Life, explique au micro de Emmanuel Elameji.
Ces personnes en situation de handicap sont marginalisées et ne peuvent pas facilement accéder à différentes scènes culturelles et tout ce qui va avec. Nous avons un penchant sur ces personnes en situation de handicap pour pouvoir le promouvoir. Voir aussi dans le secteur social comment est-ce que nous pouvons encadrer et accompagner ces personnes vivant avec handicap. Pour la Journée internationale de personnes handicapées, Biakwetu Life ASPL prévoit une semaine pour handicapés qui est une série d'activités pour voir comment est-ce que les personnes vivant avec handicap peuvent s'intégrer dans la communauté. Le 3 décembre, nous organisons une journée caritative au centre Mephibosheth, une garderie d'enfants handicapés qui se trouve à Panzi, et au centre d'encadrement et de réinsertion de personnes handicapées qui est aussi situé à Panzi. Nous allons faire en apostolat à ces deux centres-là. Pour le 4 décembre, nous organisons une journée culturelle. Ce sera un concert humanitaire avec les artistes handicapés et l'orchestre Grand Mic Jazz de Bukavu. Ça sera au stadium de Vamaro à Bukavu, vers Nyawera.
Actualité internationale.
Sport tout d'abord. Amère déception pour les supporters ghanéens. Les Black Stars ont été éliminés de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est après une défaite 2-0 contre l'Uruguay hier. De la frustration aussi car les occasions de marquer n'ont pas manqué. Au Cameroun cependant, des supporters réunis à Douala, la capitale économique, célèbrent avec classe la victoire de l'équipe nationale de football face au Brésil. Les Lions indomptables sont ainsi devenus la première équipe africaine à battre le Brésil en phase finale d'une Coupe du Monde. Par ailleurs, les Lions de la Teranga du Sénégal disputent un huitième de finale de Coupe du Monde historique demain dimanche à Doha au Qatar face à la redoutable Angleterre. Plus de 4,5 tonnes de cocaïne ont été saisies cette semaine par la marine française dans le golfe de Guinée. La cargaison de drogue d'une valeur d'environ 150 millions d'euros s'est trouvée à bord d'un remorqueur brésilien et a été découverte lors d'une opération menée dans le cadre d'une enquête internationale en coopération notamment avec les autorités brésiliennes et américaines.
L'invité.
Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, nous recevons dans ce journal le président de l'Agence congolaise de promotion des droits des personnes handicapées, Emmanuel Kakule. C'est son nom, nous parle de l'importance du sport pour la personne vivant avec handicap, mais aussi du déroulement des activités sportives à Beni après l'installation du tout premier comité de l'entente urbaine paralympique handisport. Emmanuel Kakule s'entretient avec Guylaine Kassassia.
Monsieur Emmanuel Kakule, bonjour.
Bonjour.
Vous avez procédé aux élections d'un tout premier comité dans le cadre des activités sportives ici dans la ville de Beni, au sein de votre corporation de personnes vivant avec handicap. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ainsi?
D'abord, nous avons été motivés par la matérialisation de la vision du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est concrétisée aussi par son Excellence Irène Essambo Diata, qui est la ministre à charge des personnes handicapées, selon laquelle ne laisser personne pour compte. Comme vous le savez très bien, dans le domaine du sport ici à Beni, les personnes à situation de handicap sont isolées. Elles sont marginalisées par rapport à la jouissance du droit au sport. Pourtant, il est aussi garanti à cette catégorie de personnes, conformément à la Convention des Nations Unies aux droits des personnes à situation de handicap, à son article 30, dont notre pays, la République démocratique du Congo, a déjà ratifié, ainsi que ce protocole facultatif depuis 2015.
Alors, comment ça va se passer, comme vous avez déjà un nouveau comité?
Ce nouveau comité, c'est le comité de l'attente urbaine paralympique qui a pour mission principale de coordonner, conjointement bien sûr avec les bureaux du sport et loisirs, les bureaux des affaires sociales et aussi la Ligue paralympique du Nord Kivu, toutes les activités sportives adaptées aux personnes handicapées à Beni, ça se résume dans ce qu'on appelle les handisports.
C'est le tout premier comité à Beni?
Oui, historiquement, c'est juste le tout premier comité de l'attente urbaine paralympique à Beni, parce qu'il n'y en a jamais eu un. Et nous avons aussi le souci d'étendre ces comités dans d'autres entités, telles que dans les territoires de Beni, en ville de Butembo et dans les territoires de Lubero, c'est-à-dire tous les grands Nord Kivu.
Monsieur Emmanuel, vous avez des endroits où ils vont faire ces activités, où ils vont les faire dans des stades reconnus dans la ville de Beni?
Oui, ça c'est une très bonne question, parce qu'il faut qu'on puisse un peu d'éclaircir. Donc si les personnes en situation de handicap, lorsqu'elles organisent les activités sportives, elles ont leur propre stade, c'est juste encore une façon de renforcer leur marginalisation, leur discrimination. Par contre, nous sommes en train de vouloir promouvoir l'inclusion, c'est-à-dire il faut que la personne handicapée puisse aussi faire quelque chose avec les autres. Donc, les stades qui sont déjà mis en place ici à Beni, ce sont les mêmes stades que nous allons utiliser pour la promotion du sport des personnes handicapées. Mais il faudrait que, parce qu'effectivement, il y a certaines insuffisances pour ces stades-là, par exemple, qui sont à terre, alors que les personnes en situation de handicap utilisent les fauteuils roulants. Il faudrait que ces stades-là soient adaptés à la situation des personnes handicapées, qu'elles soient inclusives, qu'on puisse simplement mettre, par exemple, les ciments et tout, pour pourra permettre à ce que les personnes handicapées y réalisent les activités sportives sans aucune difficulté. Nous profitons aussi de vos micros pour remercier les autorités locales de Beni qui ont déjà donné un espace. Là, je cite le chef de bureau du sport et loisirs, je cite le comité de l'attente urbaine de basketball qui a déjà donné un espace où les personnes à situation de handicap vont démarrer leurs activités d'abord avec la discipline de basketball à fauteuil roulant.
Oh, vous pensez que cela va les intégrer au sein d'autres communautés?
Oui, le sport, c'est juste une activité qui facilite effectivement l'inclusion des personnes handicapées parce que nous avons remarqué que l'absence de la jouissance de ces droits par les personnes handicapées renforce leur marginalisation parce que là, elles sont toujours en isolement dans leur famille et n'ont pas des occasions dans lesquelles peuvent se rencontrer et effectivement renforcer leur inclusion dans la communauté de Beni.
Vous avez parlé de fauteuils roulants qui pourront faciliter les personnes vivant avec handicap à bien mener leurs activités sportives. Comment allez-vous les avoir ou peut-on dire que vous les avez?
Parce que c'est juste un enfant qui naît et on a besoin effectivement de l'appui de toutes les autorités locales mais aussi les personnes de bonne volonté de venir à la rescousse de ce comité-là parce qu'effectivement il a besoin de certains matériels pour organiser certaines disciplines telles que le basketball à fauteuil roulant qui a besoin effectivement de fauteuils. Nous avons besoin de ballons, nous avons besoin de beaucoup de choses et on a besoin vraiment de partenaires qui puissent appuyer ce comité pour l'atteinte de sa mission, celui de faire du sport des personnes handicapées une réalité en ville de Beni.
Monsieur Emmanuel Kakoulé, nous vous remercions.
Le président de l'Agence congolaise de promotion des droits des personnes handicapées répondait aux questions de Guylaine Kassassia. Ce journal est terminé. Il a été coordonné et supervisé par Pele Kipela Mondo à la mise en onde Mimi Kindou. Merci d'avoir été des nôtres.